Et pour débuter ce LEM de ce mercredi, nous vous proposons de faire un peu de marche. On vous en a déjà parlé sur Radio Évasion, du pèlerinage à Saint-Jacques. Il y a quelques semaines, nous vous faisions découvrir le projet de Patrice Saint-Lin. Hémophile, il a décidé de partir à Saint-Jacques et il prépare activement son chemin du côté de Plougastel. Alors, en tout cas, Saint-Jacques-de-Compostelle, même si c'est loin, Brest-Saint-Jacques, c'est 1500 km, quelque chose comme ça. Dans le Finistère, on découvre aussi d'autres fadas de la marche. Alors, pour en parler, nous sommes avec Jean-Marc Ferrand. Vous êtes délégué départemental du Finistère des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Bretagne, c'est bien ça?
Et tout à fait.
Et nous sommes aussi avec Julien Guerrero, longtemps salarié de l'association Seuil, une association qui avait pour objectif de se servir de la marche pour aider des jeunes en difficulté. Si je résume comme ça, ça va?
C'est ça, parfait.
Très bien. Alors bonjour à tous les deux. Alors le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, concernant les modalités pratiques, on va peut-être essayer de résumer ça, puisqu'on avait déjà fait une émission il y a quelques temps, mais peut-être essayer d'expliquer assez simplement aux auditeurs qu'est-ce qui fait qu'on devient un pèlerin.
Moi je dis souvent, on part peut-être en donneur et on revient pèlerin. Souvent, on voit bien les gens qui partent, certains un peu le côté touriste, le côté randonneur, je vais faire une randonnée. Et puis on voit que dans la préparation, on voit qu'au fil des journées, bah, les gens sont dans une démarche de réflexion, dans une démarche de partage, ils sont assez ouverts. L'esprit est libre, la pensée, on n'a que ça à faire de la journée. Et donc, on part sur un site qui est Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un site de pèlerinage.
Mais on peut le faire en plusieurs fois, ce chemin.
Oui, on peut le faire comme on veut. On peut partir de chez soi, comme plusieurs le font de Bretagne, puisque tous nos chemins bretons sont balisés, comme on peut partir du Puy-en-Velay, de Vézelay, on peut partir de la frontière espagnole, de Saint-Jean-Pied-de-Port. Bref, c'est chacun qui organise, sa pérégrination comme il a envie.
Non, mais on peut pas partir de 20 km avant Saint-Jacques quand même. Ça fera pas des gens des pèlerins.
Alors, c'est les Espagnols qui partent 100 km avant Saint-Jacques. Pour D'accord. avoir effectivement, entre guillemets, la Compostella qui, sur leur CV, montre que c'est des gens qui, effectivement, ont envie de se dépasser et ont fait un effort pendant 100 km ou 200 km en vélo.
Voilà, c'est ça. La Compostella, il faut 100 km pour, à pied, en tout cas pour l'obtenir. Donc il y en a beaucoup qui vont faire ces 100 derniers kilomètres. Après, pour revenir à votre première question, il y en a beaucoup qui partent sur le chemin avec un certain nombre de questions. Il y en a qui partent beaucoup sans trop savoir pourquoi ils y partent. Et puis sur les questions avec lesquelles ils partent, ils vont trouver certaines réponses, pas toutes. Et puis ils vont aussi trouver de nouvelles questions auxquelles ils trouveront des réponses ou pas.
Alors, dans le Finistère, vous avez dit qu'on pouvait partir du Finistère?
Oui.
Alors, mais il y a des lieux précis d'où on peut partir pour Saint-Jacques?
Oui, on va d'un Finistère à l'autre. Nous, on dit souvent, on est bien placé pour ça dans le Finistère. On part de la pointe Saint-Mathieu et on arrive à Fisterra, donc en Espagne, après Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est 3-4 jours après Compostelle. On voit la mer là aussi. Et c'est quasiment, je dirais, un copier-coller avec notre côte finistérienne. On est en Galice et on a vraiment là, en partant d'un Finistère à l'autre. Alors, on parlait de kilomètres tout à l'heure. C'est 1800 kilomètres, hein, pour le savoir. Quand on part de la pointe Saint-Mathieu. Oui, tout à fait. Ouais.
Et on peut partir aussi de la pointe du Raz, par exemple?
Alors, on peut partir de la pointe du Raz. Là, c'est pas balisé. On peut, de pointe du Raz, on peut rejoindre Pont-Croix. Et puis là, on a encore un chemin, le kilomètre zéro, qui part de Pont-Croix. Et là, qui permet, là aussi, de descendre via Douarnenez, magnifique, via un certain nombre de chapelles Saint-Jacques. On a essayé de trouver des lieux jacquaires, comme on les appelle, ouais. Sur le chemin breton. Et à chaque fois, on va rattraper le chemin de la pointe Saint-Mathieu. On va le rattraper du côté des Liens.
Comment descendre. C'est valorisé dans le paysage, ces lieux, entre guillemets, labellisés Saint-Jacques, quoi. Il y a des choses dans le paysage qui font qu'on reconnaît un lieu labellisé?
Oui, tout à fait. Nous, on a édité déjà depuis plusieurs années, c'est Jean Roudier, notre historien, puisqu'on a une commission patrimoine au niveau de notre association, qui a fait des recherches sur tout ce qui est fontaine, tout ce qui est chapelle, tout ce qui est église ou statue ou site de Saint-Jacques en Bretagne. On les a donc tout répertoriés sur tous les départements, les 5 départements bretons. On couvre la Bretagne historique et partant de là, eh bien, on a une fiche descriptive. On sait qu'à Briec, par exemple, il y a une statue de Saint-Jacques. On sait que Pont-Croix, il y a une statue de Saint-Jacques en majesté de telle époque et ainsi de suite. Au fil des chemins, on essaye toujours de lier le chemin avec le patrimoine.
Parce que historiquement, des gens faisaient partaient d'ici, à partir de quand on a des premières traces, des premiers témoignages de personnes partant du Finistère pour aller à Saint-Jacques avec ses petites papates?
Alors on a des traces qui sont éparses, je dirais, depuis le Moyen-Âge. Les Bretons, il faut le savoir, partaient par voie de mer aussi, par voie maritime. C'est pour ça que Pont-Croix était intéressant, parce qu'avec la rivière Le Goyen, il y avait énormément, ils profitaient des bateaux de marchandises. Beaucoup profitaient d'acheminement, beaucoup partaient par la mer, parce que ceux qui partaient par la voie terrestre, beaucoup le faisaient aussi, mais ne revenaient pas forcément. Il y avait énormément de gens qui étaient atteints soit par la maladie, soit il y avait des pillages, soit il y avait des gens qui étaient détroussés. Donc il y avait énormément de problématiques. Et partant de là, il y avait nous en Bretagne des voies maritimes où les gens effectivement partaient par bateau.
Est-ce que vous pouvez nous présenter vos deux structures, Jean-Marc Ferrand pour l'association bretonne des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle et Julien Guerrero pour l'association du Seuil?
Sur le Finistère, on a à peu près 450 adhérents sur 1700 que regroupe la Bretagne. Ce sont des gens qui à un moment donné se sont dit on va faire le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc pour ce faire, il faut le fameux sésame qui est la crédentiale,
ah oui,
qu'on appelle ou le carnet du pèlerin, qui permet directement d'avoir ses tampons au fil des étapes et d'être accueilli dans les hébergements pèlerins. Hein, voilà un peu le fonctionnement.
D'accord, ok. Ça se passe comment les tampons? C'est à la fin, à chaque gîte étape en fait
Oui, quasiment, ou dans chaque commune. On va traverser, je disais, on part de Pont-Croix. Bah, au départ de Pont-Croix, la mairie a mis en place un tampon.
D'accord.
Et le kilomètre zéro et ainsi de suite. Au Fou ici, on peut aller à la mairie ou on peut aller chez un hébergeur. Eh bien, et on aura le tampon de la commune du Fou.
D'accord. Et certains pèlerins veulent vraiment faire la collection des tampons.
Oui.
Ils vont même, au cours de la journée, s'arrêter dans des bars qui ont leurs propres tampons,
oui,
et avoir plusieurs tampons par jour.
Mais il peut y avoir des falsifications, donc.
non, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il y ait un tampon par jour. C'est ce, oui, qui montre vraiment la continuité, mmh, du pèlerinage.
Et l'association Seuil, Julien, pour laquelle vous avez travaillé, vous pouvez nous en dire quelques mots?
Bien sûr, donc l'association Seuil a été créée en 2000 par un homme qui s'appelle Bernard Olivier, qui... ancien journaliste, venait de prendre sa retraite et fait partie de ces gens qui ont assez mal vécu le passage à la retraite. Il aimait beaucoup son métier. Tout d'un coup, il s'est senti un peu inutile et un peu dépressif. Sur un coup de tête, il a décidé de partir depuis Paris vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sur le chemin, alors qu'il pensait qu'il était déjà dépressif et que ça allait peut-être encore plus l'affecter, ce gros effort physique, au contraire, il s'est découvert des forces incroyables, des ressources incroyables. Et surtout, en chemin, il a rencontré un accompagnant et un jeune, donc un accompagnant adulte et un jeune belge, à qui un juge avait proposé de partir sur une marche. Voilà, le jeune avait fait quelques bêtises, et donc le juge, plutôt que de l'enfermer dans une prison ou dans un foyer, lui avait proposé de partir avec un accompagnant adulte pour réfléchir sur le chemin de Compostelle. Et donc Bernard Olivier, fort de ses expériences, a pris deux décisions quand il est rentré. D'abord de continuer à marcher, donc il est reparti quelques temps après pour parcourir toute la route de la soie entre la Turquie et la Chine. Il en a écrit des livres, et comme il était ancien journaliste, il savait très bien écrire et ses livres se sont très bien vendus. Et grâce aux recettes de ses ventes, il a pu faire la deuxième chose qu'il voulait faire, c'est-à-dire créer en France, cette fois, une association qui propose la même chose.
L'association Seuil, ça, entre guillemets, sauve combien de jeunes peut-être par an?
Alors, elle prend en charge à peu près 35 jeunes par an maintenant, ce qui peut paraître dérisoire, mais ce qui est énorme, puisqu'il faut bien voir que pour chaque jeune, il y a un seul accompagnant adulte, donc il faut recruter chaque année 35 accompagnants qui vont marcher.
On leur propose un choix, en fait, à la base, si je ne me trompe pas.
Aux jeunes, oui. Rien ne leur est imposé. On leur propose ça, on leur dépeint l'aventure de façon réaliste.
C'est ça ou quoi d'autre?
Alors, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Les situations sont très variées. Ça va des simples problèmes familiaux jusqu'à de la délinquance avérée. Et dans certains cas, le juge va dire c'est soit ces 3 mois de marche, soit un placement en foyer ou en centre éducatif fermé ou renforcé, voire en prison pour mineurs. Donc on leur présente le projet et on leur permet de réfléchir un peu. Et ensuite, on leur demande de faire une lettre de motivation, symboliquement, par principe. Et ensuite, ils partent 3 mois tous les deux. Donc c'est pas un groupe, c'est juste un binôme adulte-jeune. Ils partent 3 mois à marcher 1600 km à raison de 20 à 25 km par jour.
Se servir de la marche comme vecteur d'insertion, c'est une démarche risquée ou adaptée?
C'est forcément les deux, c'est forcément un risque. Hein. Le directeur de l'association le dit lui-même, on fait un pari à chaque fois. On ne sait pas trop, on a des espoirs, on a quelques pressentiments, mais on ne sait pas trop exactement dans quoi on s'embarque. Donc il y a forcément une part de risque, mais ça fait partie de l'humain. Hein. Ça fait partie d'un moment pour ces jeunes qui ont décroché d'une certaine façon. Et pour leur permettre de raccrocher, à un moment, il faut que nous, la société, on accepte de leur faire confiance un petit peu, de leur tendre un bras. Et puis s'ils sont dignes de cette confiance, la confiance va se grandir. venir se tisser petit à petit. Et d'un autre côté, c'est tout à fait adapté, puisque quand vous avez un jeune qui va commettre un acte, qui va poser un acte parce que enfance difficile, parce qu'un certain nombre d'événements qui l'ont vraiment secoué, qui l'ont cabossé, et ben il va à un moment piquer une crise et poser un acte par frustration d'une certaine façon. Et si on répond à ça en l'enfermant et donc en répondant à la frustration par plus de frustration, et ben malheureusement on a beaucoup de récidives à la sortie et malheureusement il ne faut pas s'en étonner. Alors que là, si on leur propose d'accomplir quelque chose de beau, de grand, qui va les valoriser, qui va leur redonner confiance en eux, il y a moyen d'aboutir à un vrai déclic.
Vous avez été accompagnant, donc vous avez accompagné plusieurs jeunes vers Saint-Jacques. C'était quoi le quotidien à peu près, à quoi ça ressemblait, de quoi faut-il user, quelles sont les capacités qui sont nécessaires à accompagner un jeune?
Alors, les capacités, évidemment, ça va de soi, une certaine patience, mais aussi de la disponibilité, de l'écoute. Une capacité à ne pas s'énerver, même quand le jeune a envie que vous vous énerviez, a envie de vous attirer vers ça, parce que c'est son mode de fonctionnement. Ne pas rentrer dans ce jeu-là, faire en sorte que ces attaques, d'une certaine façon, enfin ces tests, glissent sur vous comme sur les plumes d'un canard, et ça va l'apaiser de lui-même. Et ensuite, ben, il va sûrement, après un certain temps, se livrer, avoir envie de se livrer, puisque la confiance va se créer avec tous ces kilomètres partagés. Et donc quand il se livre, bien, tout simplement entrer dans un échange, un dialogue, en y mettant de la maturité pour voilà, tirer ce jeune vers le haut et lui permettre d'élaborer sa propre réflexion. Engager le dialogue, mais dans une attitude interrogative pour que ce soit le jeune qui fasse lui-même la réflexion et non pas qu'on lui donne une pensée toute faite.
Parce que c'est beaucoup de temps passé avec un jeune, j'imagine.
Oui, ça dure sur 7, 24 heures sur 24 pendant 3 mois, c'est beaucoup de temps.
On donne beaucoup de soi, mais en même temps, il y a aussi des liens qui doivent se créer, forcément.
Exactement.
Obligatoirement. Il y a des choses qui restent après ?
Il y a des choses qui restent. Alors, les marches sont des moments difficiles. Hein. D'ailleurs, on le dit nous-mêmes à l'association, une marche qui se passerait parfaitement bien, ce serait même pas normal. Il faut qu'à un moment, il y ait des clashs, puisque c'est quand même des jeunes qui ont une certaine charge émotive et il faut que ça sorte à un moment. Il faut crever des abcès. Mais après, oui, il n'empêche qu'il y a des liens très forts qui se créent par le simple fait qu'on a partagé tout ça ensemble, les bons comme les mauvais moments. Et il peut y avoir, on ne force rien, hein, c'est libre aux jeunes de souhaiter garder un lien avec l'accompagnant ou l'accompagnante. Mais personnellement, j'ai gardé des liens avec les quatre jeunes que j'ai accompagnés entre 2011 et 2015. Oui.
Jean-Marc Ferrand, j'avais envie de vous poser une question liée au témoignage de Julien. Qu'est-ce qui vous rassemble tous entre pèlerins ? Qu'est-ce qui vous regroupe ? Peut-être un point commun entre chaque pèlerin ?
Un point commun, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'en l'espace de peu de temps, on connaît toute la vie des gens. Moi, j'ai été assez surpris, les gens se livrent facilement. Tout le monde est tourné vers une même approche qui est la réflexion quand on marche, et puis le désir de s'ouvrir et d'aller vers les autres. Il y a des grands moments de partage, de rencontre, quand on voit les gens le soir, par exemple, dans les refuges ou dans les albergués, et les gens se regroupent pour manger ensemble, pour essayer de mettre en commun des idées, de parler, et je trouve que même il y a des étrangers, le chemin est très international. On parlait de la Via de la Plata en arrivant, et il y a peu de Français, moi j'ai été surpris, il y a beaucoup de jeunes.
C'est à quel moment dans le chemin, le lieu dont vous nous parlez ?
La Via de la Plata, c'est un chemin qui part d'Andalousie, qui part de Séville, qui remonte vers Salamanque, qui traverse l'Extrémadour, la Castille, le Léon, la Galice, pour aller vers Compostelle. Celui-là, il part du sud.
Ouais, c'est pas le chemin que vont emprunter les Finistériens.
Les Finistériens vont le faire après, parce que souvent on se rend compte que les gens qui ont déjà fait un chemin, c'est un peu comme une maladie, il n'y a pas de vaccin, et tant mieux. Hein, et je crois que par rapport à ces rencontres, c'est des bons moments de partage avec des gens, et on partage la même chose. Et on se rend compte après, quand on revient, on ne peut pas en parler aux autres. Les gens qui n'ont pas fait le chemin nous prennent un peu pour des fous, enfin, je ne sais pas, mais...
Oui, ce qui peut être très frustrant d'ailleurs, d'avoir du mal à communiquer.
On ne peut pas en parler à tout le monde. On ne peut pas, parce qu'il y a des choses tellement fortes qui se sont dégagées. Il y a des gens qui vont se confier. Moi, j'ai été surpris de ça. Comme je disais, on sait toute la vie des gens en l'espace d'une soirée.
Et pour ces jeunes qui sont parfois un peu anti-adultes, hein, ils ont une sorte de dent contre l'âge adulte d'une manière générale. Ils n'ont pas envie eux-mêmes d'aller vers cet âge adulte. Ils ne savent pas trop quel adulte ils vont incarner. Et là, ils rencontrent évidemment essentiellement des adultes sur le chemin de Saint-Jacques. Et parfois, ils sont assez remués de constater par eux-mêmes que après 2-3 jours seulement, eh ben, ils connaissent ces autres adultes sur le chemin de façon
assez intime. Et de constater que ces adultes ne se sont pas faits en un jour.
Et oui, exactement. Mmh. Et surtout, il y a des liens de convivialité, de fraternité qui se tissent en 2-3 jours. Et ces jeunes se disent, mais je... Ouais, il y a des choses plus profondes qui passent avec ces adultes-là, alors que je ne les connaissais pas il y a 3 jours, alors qu'avec des adultes que je connais depuis 10 ans ou 15 ans, il y a des choses qui n'arrivent pas à passer toujours.
Et les gens se recherchent. On voit même des gens, tiens, au bout de 2 jours, tiens, vous n'avez pas vu telle personne, ce matin il est parti, mais je ne sais pas par où il allait. Mmh. Et les gens se renseignent même où tu vas demain soir. Ou... Mmh. Bon, les gens, il y a un plaisir de se retrouver par rapport à des situations.
Ouais.
Dans ce long périple, alors c'est peut-être une question pas facile, mais est-ce qu'il y a quelle part de spiritualité il y a là-dedans, tout en écartant peut-être la religion ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte, vous y pensez, quand vous y allez
Nous, on dit, d'abord, nous sommes une association non confessionnelle. Mmh. Nous, là, ça ne nous regarde pas. Les gens s'inscrivent, font le chemin pour les motivations qui sont les leurs et qui sont personnelles. Mais c'est spirituel, certainement. Je pense que, il y a de la réflexion.
Mais la spiritualité ne passe pas forcément par la religion.
Bien entendu, mais surtout, oui, tout à fait. C'est bien pour ça que je dis ça. Et le chemin spirituel, il est un chemin de réflexion, il est un chemin de beauté. Il est, voilà, c'est un moment dans sa vie où on peut faire un break. Je vois souvent des gens aussi un peu fatigués dans leur quotidien. On voit qu'aujourd'hui, la société, c'est de plus en plus complexe et compliqué. Et il y a des gens qui font un break. Moi, j'ai une personne qui m'a appelé. Elle a pris 6 mois de congé sans solde pour partir sur le chemin. Et puis après, elle va voir ce qu'elle fait. Elle revient. Mais voilà, les gens se donnent un moment de réflexion. Et quand on marche, on fait 25 km par jour, ben on a le temps de penser. Hein, on a le temps de se remettre en cause, on a le temps d'échanger. Et on se rend compte, et c'est ce qui fait la richesse, c'est que les gens, le soir, ben, parlent ensemble et partagent des moments. Et ça, je crois que c'est une très grande richesse.
Et de même, l'association Seuil est non confessionnelle. Mais je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Marc, il y a une spiritualité. Ces jeunes vont plonger par le simple fait que la marche leur offre l'opportunité d'une rencontre avec eux-mêmes inédite. Quand ils vivent dans leur quartier, ils n'ont pas ce luxe d'être avec eux-mêmes, même si eux, ils ne le perçoivent pas comme un luxe au début, parce qu'ils trouvent ça très inconfortable. Mais avec le temps, ils se rendent compte que c'est un luxe d'être seul avec soi-même, d'avoir cette qualité d'introspection, d'avoir du temps. Et il y a une forme de spiritualité qui va rentrer là-dedans.
Comment vous y êtes, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
Non, je disais, et par contre, il faut faire très attention. Une fois qu'on est parti sur le chemin, on en parlait, c'est pas la vraie vie non plus. Hein, tout n'est pas rose et beau, mais sur le chemin, on n'a pas d'autre souci que de marcher, de trouver à manger. Et comme on dit, c'est à la fois s'intéresser à la géographie, à l'histoire, au patrimoine, à la gastronomie, parce qu'on traverse des régions où il y a une gastronomie comme partout, et les rencontres des gens différents, la langue aussi, l'intérêt d'essayer de s'intéresser à l'espagnol, aux anglais, etc. Et je crois que c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas une chose, mais c'est un ensemble.
Mais c'est très intéressant parce que tu disais c'est pas la vraie vie, et c'est vrai d'un côté. Mais d'un autre côté, c'est la vraie vie.
C'est un condensé, quoi.
C'est aussi la vie telle qu'on aimerait la vivre.
C'est une vie idéale.
Le goût qu'on voudrait ouais. caler dans nos rêves. Donc c'est à la fois vraiment la vie avec un grand V, et à la fois on sait très bien qu'on ne peut pas passer toute sa vie sur le chemin.
Pour peut-être revenir au départ, comment vous y êtes tombé dans le chemin de Saint-Jacques?
Alors moi j'y suis tombé en 2000, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait 19 ans, et moi ça me... j'allais dans des réunions, parce qu'on en avait entendu parler avec mon épouse, et moi ce qui m'énervait, c'est que les gens disent « Ah ben j'attends la retraite et je vais partir à Saint-Jacques ». Ben oui mais non, moi je le dis toujours et je milite pour ça, même au niveau de l'école, on parlait de valeurs, il y a des valeurs sur le chemin, et faut pas attendre pour partir. Si on a 3 semaines de congé, on peut faire 3 semaines d'étapes de chemin, on peut faire un mois, voilà, on peut s'organiser, repartir de l'endroit où on s'est arrêté l'année précédente. On n'est pas obligé de faire tout en une fois, même si c'est préférable, et ouais, il faut pas attendre, et je trouve que les étrangers le font bien au niveau international. Il est jeune le chemin. On voit des gens de 30 à 50 ans, c'est fréquent. Alors qu'en France, on voit beaucoup de seniors, de gens qui attendent en se disant « Ah bah si, là j'aurai du temps, je vais m'organiser. » Moi je dis non, il peut vous arriver des accidents de la vie, des problèmes de santé, etc. Et on a eu l'occasion d'accompagner des élèves d'une école sur le chemin. Là aussi, avec une collaboration avec un prof d'espagnol, le prof de géographie, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ils sont partis une semaine avec toute une logistique en Espagne pour voir ce que c'était le chemin de Compostelle. Et là aussi, les enfants sont mieux connus ensemble qu'à l'école où on est là dans la cour. C'est surfait un peu, c'est abstrait, on connaît son copain, mais voilà. Et là, ils se sont découverts autre chose, on nous a dit. Et ça a été un très beau projet pédagogique. Et je crois que voilà, c'est encore une valeur qu'on peut travailler à travers l'effort, le goût de l'effort aussi, la marche. pas simple de partir. On peut avoir des ampoules, on peut avoir des problèmes physiques. Donc il y a le goût de l'effort aussi. Je crois que c'est important de le faire partager.
Et de la persévérance, parce que souvent, il y a des caps à franchir. Hein. Il y a un moment où on a mal partout et on se demande pourquoi on fait ça et pourquoi il faudrait qu'on continue. Et en fait, on persévère un peu et on franchit ce cap-là. Et finalement, les petits bobos rentrent dans l'ordre et le corps s'habitue. Et il y a un moment où, de nouveau, on a un second souffle et on se sent presque tout puissant.
Julien, comment vous êtes vous lancé dans un... Vous l'avez, avant de rentrer dans l'association Seuil, vous avez fait le chemin seul?
Non, j'y suis rentré sur le chemin de Saint-Jacques par l'association. Par contre, je m'intéressais à la marche déjà et je m'étais déjà lancé quelques défis personnels à pied. Et j'avais pu goûter un peu à ce que Bernard Olivier avait goûté, le fait que ça nous remue de l'intérieur, ça nous nettoie de l'intérieur. Quand on a des soucis, ça va pas forcément les résoudre, mais ça va permettre de vraiment tout mettre à plat et on revient chez soi avec en tout cas en étant apaisé et avec un état d'esprit propice pour résoudre ces problèmes enfin, plutôt que de les triturer dans tous les sens. Et donc quand j'ai entendu parler de l'association, ayant expérimenter dans ma propre chair les bénéfices de la marche, quand j'ai entendu parler de cette association qui voulait mettre ça à profit de jeunes en difficulté, ça avait totalement du sens, quoi. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'investisse là-dedans. Et ensuite, Saint-Jacques.
Peut-être qu'il y a des récits, des auteurs qui donnent envie de découvrir ce chemin de Saint-Jacques. Vous l'avez peut-être découvert, ce chemin, via des auteurs, peut-être ?
Il y a une multitude d'auteurs qui ont écrit, son nom m'échappe, mais un célèbre Brestois qui avait écrit un petit bouquin au tout début, un écrivain brestois, Hervé Bellec, voilà, ça y est, qui est un des premiers, avait écrit son chemin quand il est parti sur le ton de l'humour. Mais aujourd'hui, on voit un florilège de livres sur Saint-Jacques de Compostelle, on le voit de partout, des récits, des personnes qui, une fois marquées, trouvent l'intérêt de l'écrire, leur chemin. On voit des gens avec un petit calepin tous les soirs où tout le monde note ce qui s'est passé dans la journée, ce qu'il a vu, ses rencontres, et il y a énormément de récits. Il y a énormément d'ouvrages sur le chemin.
Et ça a de grandes conséquences parfois, puisque je sais qu'il y a un Allemand qui avait parcouru le chemin il y a quelques années, qui en a écrit un livre. Le livre s'est tellement bien vendu qu'il y a beaucoup d'Allemands aujourd'hui sur le chemin qui sont venus par ce livre.
Et vous, le partager via des écritures?
Peut-être.
C'est typiquement le genre de truc qui pourrait bien tenir la route sur un bouquin ou même sur un blog tenu au jour le jour, le long d'un...
Avec l'association Seuil, d'ailleurs, on encourage les jeunes eux-mêmes à écrire, même si c'est un peu naïf parfois ou un peu simple, mais il y en a qui écrivent vraiment de très belles choses, même de façon maladroite, et donc c'est mis en ligne ensuite sur le blog de l'association. Et là, je sais qu'il y a un projet en cours pour faire une sélection des meilleurs passages et en faire un livre.
Pour terminer, on va quand même faire un point d'actu par rapport à la marche, mais pas que vers Compostelle, parce que Julien, vous vous êtes lancé un défi le 21 juin, racontez-nous un petit peu tout ça. Je pense qu'on va en entendre un petit peu parler, voire peut-être beaucoup, parce que le défi est un peu fou quand même.
J'aime bien les défis et je me suis dit pourquoi pas le 21 juin, le jour de l'été, pour célébrer ça de façon légère et positive et enthousiasmante, je me propose de marcher de Brest à Quimper, ce qui représente à peu près 73 km en une journée, et même entre le lever et le coucher du soleil. Donc je prévois de partir de Brest, de la place de la Liberté, à 7h vendredi matin, le 21 juin, et si tout se passe bien, je devrais normalement arriver à Quimper vers 21h30. Pour porter un message aussi de préservation de l'environnement, puisque ça me tient à cœur, lancer un message un message positif à mes contemporains en disant n'oublions pas, notre dépendance au pétrole parfois, une certaine paresse qu'on peut avoir, et moi aussi, je fais pas exception, à changer nos habitudes pour prendre soin de notre chère planète. On a une énergie phénoménale, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit créative. On a des ressources insoupçonnées. Soyons-en conscients et n'hésitons pas à les réveiller, à nous dépasser pour des causes qui nous paraissent justes et belles. Voilà.
Ça fait juste 20 ou 30, 30 km de plus que marathon.
C'est ça.
Avec pas le même destin à la fin.
Pas le même destin à la fin, non, j'espère. Et uniquement en courant, donc je vise pas un record particulier.
C'est voilà, ça, ça va faire du 5-6 km par heure.
Quoi. Voilà, c'est ça. À peu près, je marcherai à 6 et avec quelques pauses, la moyenne descendra à 5.
Donc ça fait partir très tôt, quoi.
Ça fait partir à 7 heures. Mais bon, j'en profite, il y a beaucoup de luminosité ces jours-ci, donc c'est le bon moment pour le faire.
Merci beaucoup Julien. Et du côté de l'association bretonne des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle, quelle est l'actualité?
Alors on a la Saint-Jacques le 25 juillet, donc on la fêtera à Pont-Croix, comme on le fait depuis plusieurs années avec la mairie de Pont-Croix, qui justement participe avec nous. On organise une marche de 15 km. On organise ensuite un concert dans la collégiale de Pont-Croix, où il y a une acoustique extraordinaire avec la chorale d'Acapo, qui est une chorale de Pont-Croix. Et puis on aura un buffet de l'amitié, un buffet un peu républicain pour terminer. Les gens pourront échanger ensemble sur leur chemin et puis sur des futurs projets. Donc ça, c'est proche. Sinon, on organise des sorties aussi pour découvrir les chemins bretons, où on essaye à chaque fois de passer 2 jours sur des étapes de nos chemins, à plusieurs, et de descendre ainsi jusqu'à Clisson, voire la Vendée, puisque nos chemins rejoignent les chemins vendéens maintenant. Et voilà, c'est cette actualité-là. On a des ouvrages aussi, puisqu'on on vient de terminer l'écriture d'un livre sur justement les chants bretons au Moyen-Âge, qui les gens chantaient Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc on a retrouvé des guerres, on a retrouvé des chants, et qui sont traduits avec les partitions pour les musiciens qui veulent bien s'y adonner. Et puis voilà, et puis là on met la main à notre dernière revue trimestrielle, on parlait d'écrit tout à l'heure, puisqu'on a une revue où les gens aussi, sur le patrimoine, sur leur chemin, sur la façon de cheminer, on vient d'en parler, donc on met à leur disposition une revue trimestrielle.
Si on veut plus d'infos sur la structure,
ouais, le site internet Compostelle-Bretagne, compostelle-6bretagne.fr, où là on va trouver comment organiser un départ d'un chemin au niveau de la Bretagne, comment aller dans une des permanences, on a 7 permanences sur le département du Finistère, où là on peut avoir toutes les infos, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac. On a des gens qui viennent avec un sac type prêt à partir, en disant voilà, n'emmenez pas ceci, partez pas chargé. Donc des conseils pratico-pratiques, puis des anciens qui viennent donner leurs adresses. Il y a des hébergements mieux que d'autres, il y a des chemins où il faut mieux s'arrêter pour aller voir tantôt une chapelle, tantôt un patrimoine. Donc voilà, il y a des gens qui ont l'habitude et qui viennent l'expliquer.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.